France Musique. Musicopolis. Rachmaninov, 1917, Moscou.
Rachmaninov.
1917, une année qui va s'avérer cruciale dans la vie de Serge Rachmaninov, comme dans la vie de nombre de ses compatriotes. Rien ne laisse présager début janvier que c'est là sa dernière année sur le sol russe, le pays de ses ancêtres. Ce début d'année 1917, Serge Rachmaninov poursuit la carrière qu'il mène depuis plusieurs années. Il alterne des périodes de concerts, automne et hiver, comme chef ou comme pianiste, avec des périodes de repos relatifs, printemps et été, durant lesquelles il se consacre à la composition. Rachmaninov vit à Moscou. Du moins, il y revient régulièrement la partie de l'année où il assure sa saison de concert. Pour cet automne et hiver 1916-17, il a commencé sa tournée le 1er octobre à Kazan, au Tatarstan, à l'est de Moscou. Puis un concert à Petrograd, anciennement Saint-Pétersbourg, capitale de Russie depuis Pierre le Grand, au nord. Un à Moscou, deux à Petrograd. Un mois plus tard, à nouveau Petrograd pour trois concerts, puis Moscou, Petrograd, Kharkov, Moscou, Saratov, Moscou, Petrograd, Moscou à nouveau. Je ne vous ai pas énuméré un grand nombre de villes pour les tournées de Rachmaninov. 5 pour un total de 19 concerts en 3 mois. Mais il y a tellement d'allers et retours à partir de Moscou que si on fait le compte des kilomètres, ça paraît beaucoup plus. Nous arrivons à un total de 13 200 kilomètres tout de même. Bien sûr, il y a des trains et qui fonctionnent bien. Et néanmoins, on comprend que ces déplacements représentent une fatigue importante pour un musicien, même de robuste constitution. Thank you. Le 7 janvier 1917 a lieu un concert important pour Rachmaninov à Moscou. Il est à la tête de l'orchestre du Bolchoï pour diriger trois de ses œuvres, Le Rocher, L'île des morts et Les cloches. Ce soir-là, notre musicien a autant de succès comme compositeur que comme chef. En fait, c'est le héros musical du moment et il a droit à une véritable ovation. Rachmaninov est un chef d'orchestre réputé. Il s'est fait la main, ou plutôt le bras, comme on dit de ceux qui tiennent la baguette, il y a bien longtemps. Il a dirigé beaucoup d'ouvrages lyriques et il a été engagé de manière régulière, d'abord à l'opéra privé de Moscou, puis au Bolchoï justement, où il dirige ce 7 février 1917. Il a été également à la tête de l'orchestre philharmonique de Moscou. Un autre chef, Nikolaï Malko, après l'avoir entendu dans « La Dame de pique » de Tchaïkovski, a écrit qu'il rendait la musique étonnamment fraîche. Tous les clichés étaient gommés et l'opéra arrivait aux oreilles de l'auditeur, renouvelé, vivant, comme s'il avait juste été nettoyé. À Londres, le Times soulignait que son contrôle était souverain et son calme idéal. En ce début d'année 1917, Rachmaninov est assez en forme. L'été précédent, il a noué des liens musicaux avec une jeune soprano, Nina Koschets, qu'il avait eu l'occasion d'accompagner auparavant en concert. Il apprécie sa voix, son charme, sa fantaisie. Et alors que 1916 a été peu féconde, il a eu soudain un regain de créativité. Et il a écrit pour elle un recueil de mélodies qu'ils pourront donner ensemble en concert. Le premier concert que donne Rachmaninov à Moscou avec Nina Koschets a beaucoup de succès. Un critique écrit « En de telles occasions, la chanteuse est habituellement le centre de l'attention et personne ne remarque le pianiste. Pour une fois, le contraire s'est produit. L'accompagnateur a été la vedette de la soirée, non seulement de droit, en tant qu'auteur de tout ce qui était joué, mais de fait, en tant qu'incomparable artiste qui donne à ses compositions la chair et le sang du son et les illumine d'un souffle vital qui pénètre l'interprétation des deux interprètes.
Oh,
Les mélodies chantées à la fin du programme, écrites un critique moscovite après le concert de Rachmaninov et Koschetz, sont écrites sur des textes de poètes modernistes qui n'avaient pas jusqu'ici attiré l'attention du compositeur, Bellini, Bolk, Severianin, Sologoub et d'autres. Son approche du problème de l'incarnation musicale de nouvelles formes littéraires paraît adéquate. Il n'a pas cherché à imiter les compositeurs proches de la nouvelle poésie, mais il a trouvé en lui-même les accords qui répondent à cette poésie. Parmi les textes mis en musique dans ce recueil, que Rachmaninov a intitulé « Six poèmes pour voix et piano » et qui porte le numéro d'opus 38, le troisième, d'Igor Severianin, s'appelle « Marguerite » et il l'a plus tard arrangé pour le piano. C'est la seule mélodie du recueil pour laquelle nous ayons un enregistrement de Nina Koschetz elle-même, qui nous donne une idée de ce que Rachmaninov a apprécié en elle, même s'il date de 1941, 25 ans plus tard. Si Rachmaninov a choisi pour la première fois de mettre en musique des poèmes modernes, alors que ses goûts en matière de poésie sont jusque-là plutôt conservateurs, c'est qu'il a été influencé. Depuis quelques années, il entretient une correspondance amicale et artistique avec une jeune poétesse, Marietta Chaguignan. C'est elle qui, la première fois, lui a écrit de manière anonyme en signant Ré, comme la note Ré. Note importante pour Rachmaninov, qui a souvent écrit dans cette tonalité, notamment son troisième concerto. Lors d'une de leurs quelques rencontres, une fois l'anonymat levé, elle lui a confié une anthologie de poésie moderne que le compositeur a d'abord trouvée plus horrible les unes que les autres, avant d'y découvrir ce qui lui convenait.
Thank you.
Pendant le mois de janvier 1917, Rachmaninov alterne donc les concerts en tant que chef, accompagnateur de Nina Koschets ou encore soliste de récital. Le critique moscovite Engel pose une question après l'avoir entendu jouer ses nouvelles études tableaux opus 39. Qui, parmi les pianistes russes, est le plus brillant et le plus rayonnant ? Pour moi, le choix est clair, Rachmaninov. Ses études tableaux sont des pièces délicieuses, indépendamment de leur interprète, fut-il Rachmaninov lui-même. Quelque chose de nouveau plane sur l'opus tout entier. Nulle part nous ne trouvons le bonheur, le calme, le bien-être. Et pourtant, elles sont toutes parcourues par une pulsation de vie qui, par les sons, dit ce qui doit être dit et le dit magnifiquement. La plus séduisante est sans doute celle en si mineur, une pièce merveilleuse, un peu dans le style d'une humoresque avec un rythme vif. Quatrième étude tableau opus 39 de Serge Rachmaninov, Nicolas Angelitch au piano. Tout le programme, la réécouter, le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Bruno Mourlan pour le mixage, Françoise Monteil pour les recherches et le site et Claire Lagarde pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.